Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous ceux que je n'aurais pas salués. Je vous propose que nous ouvrions pour notre méditation un passage, un texte dans l'évangile de Matthieu. Vous en conviendrez, ce passage il est unique, dans ce sens qu'on ne le retrouve pas dans l'évangile de... On va laisser la porte un petit peu ouverte, c'est très chaud. Voilà. Alors, donc, évangile de Matthieu, chapitre 25... Et verset 31. Alors voilà ce que je lis, nous repasserons naturellement dans la méditation en faisant ressortir les éléments qui nous intéressent pour notre édification. Donc, verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors voilà pour la situation. J'aimerais nous entretenir sur un fait particulier qui quelquefois peut être embarrassant pour les chrétiens. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que ce que je fais dans mes actes, mes actions, dans mon engagement, est-ce que j'en fais assez? Et Jésus répond à cette question qui est sans ambiguïté, vous allez le voir. Et je voudrais laisser un petit peu de côté, parce que on y passerait la journée, mais laisser de côté les conséquences de ce qui peut être fait et les conséquences de ce qui n'est pas fait. Quand il est parlé de vie éternelle, de châtiment éternel, je ne vais pas aborder le sujet ce matin, mais j'aimerais justement parler de ce qui nous intéresse, et parce que quelquefois la compréhension n'est pas toujours très claire chez les chrétiens que nous sommes, en disant, mais voilà, c'est vrai que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'altruisme, de philanthropisme, il y a beaucoup d'actions sociales, il y a beaucoup de ceci et cela. Vous m'avez pas souvent entendu parler sur le sujet, hein, en disant, hein. Mais je voudrais en parler parce qu'il y a longtemps que j'ai sur le cœur de pouvoir aborder les choses afin que les pensées soient claires dans chacun d'entre nous, la position soit claire, et qu'il n'y ait pas de culpabilité non plus. Parce que nous avons quelquefois parmi nous, des chrétiens qui sont culpabilisés parce que voilà, c'est ceci, c'est cela, et quelquefois ils se tourmentent avec ça. Alors je voudrais quand même vous mettre à l'aise et de dire que, comme Jésus l'enseigne, qu'il y a un critère tout à fait particulier que nous allons découvrir ensemble. Alors, le verset 31, je vais commencer par là, nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire », pour rappeler simplement qu'il est venu une première fois dans son humiliation, comme Messie d'Israël et comme Sauveur des hommes, il y a 2000 ans, qu'il a parcouru les chemins de Palestine, il a parlé, il a enseigné, il a guéri, il a sauvé, il a dit beaucoup de choses, il est mort, il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Puis il est ressuscité. Donc nous avons un Christ vivant. On n'est pas là à se prosterner devant un être invisible et incompréhensible, comme s'il était mort. Mais il est vivant pour nous. C'est une réalité. D'ailleurs, nos chants, notre engagement, nos louanges et notre adoration fait la preuve que nous nous adressons à quelqu'un qui est vivant. Il est le premier et le dernier, il est toujours le même. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra, donc c'est une certitude, eh bien, l'objet de ce petit passage, c'est de juger le monde. Voilà. De juger le monde par défaut de ce que ce monde même qui a été visité n'ait pas cru en Jésus-Christ, parce que s'il avait cru en Jésus-Christ, s'il avait accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il ne serait pas jugé. L'Évangile est très clair. Elle nous met en face de ceci, soit Jésus est notre Sauveur ou Jésus sera notre juge. C'est à nous de déterminer. Et que personne ne se plaigne que, quelque part, c'est de la faute de Dieu, puisque les choses ont été bien clairement définies. Alors, il s'assiera sur son trône. Donc, il y a quelque part une connotation, une image de justice. Ouais, une image de justice, mais d'une justice qui sera parfaite. Elle est bien précaire, notre justice, même si les hommes font tous leurs efforts pour essayer de faire en sorte que, elle soit rendue équitablement. Mais là, ça sera une justice parfaite. Alors, et elle sera impartiale aussi. Et qui sera jugé dans cette affaire? Il nous est dit les nations qui seront assemblées. Les nations, c'est le monde. À travers tous les temps, les sociétés, les civilisations, tout ce qui a pu découler depuis la venue de Jésus, alors ça fait du monde sur la terre. Ça fait des milliards et des milliards de personnes. Alors, comment le procès de l'homme se fera-t-il? C'est encore une autre question qui survient. Et sur quels critères Dieu jugera-t-il? Et c'est justement ce que nous allons voir d'ici quelques instants. Et Jésus nous livre dans ce récit quelques traits généraux qui sont importants de savoir. Et je voudrais vous dire tout de suite, on n'est pas sauvé par ce que l'on fait, mais on est sauvé par ce que l'on croit. Redécouverte d'un certain moine, Martin Luther, au XVe siècle, qui en lisant l'Épître de Paul aux Éphésiens a redécouvert la valeur de cette parole. C'est par la foi que nous sommes sauvés et non pas par les œuvres. Alors entendons bien les choses. C'est l'essence même du protestantisme. Ça commence comme ça. Pour aller encore un peu plus loin, il est question de la séparation définitive des justes et des injustes. C'est ce que Jésus nous enseigne quand il est question du grain de blé et de l'ivraie. Vous savez, dans la parabole de Matthieu chapitre 13, le bon grain d'un côté, l'ivraie de l'autre. Où c'est encore aussi l'image que Jésus prendra quand il parlera de ce pêcheur qui arrive de sa pêche, qui se met sur le port, qui est en train de sortir de ses filets les bons poissons et les mauvais. Les mauvais, il les remet à l'eau et les bons, il les garde. Bon, il y a toutes sortes d'images comme ça. Le verset 32 nous dit, et surtout la fin du verset 32, il séparera, c'est parabolique, les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc il y a une image, comme Jésus est familier avec ces images paraboliques, c'est des métaphores, les bergers, ou un berger avec son troupeau, d'un côté les boucs et les brebis. Il y a là, dans cette séparation, une direction pour une destination. Oui, une indication de direction pour une destination bien précise, à droite et à gauche. Et nous l'avons lu en terminant le récit. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le châtiment éternel. Je passe encore très vite. Les critères retenus des sauvés, des sauvés qui sont jugés, à savoir l'amour dans un cœur humble et droit. Et ça, c'est fondamental. La droiture de cœur, la rectitude de cœur, qui est une victoire sur l'égoïsme naturel et qui, nous le savons bien, eh bien, peut parfois nous occuper nous aussi. Et dans le sens positif, les fruits de l'amour précédant ou procédant de la foi. Souvent, dans le monde de la religion, on a mis un peu les choses à l'envers, permettez-moi de le dire, et sans jugement. C'est-à-dire que on peut faire beaucoup de bien, mais sans la foi. Ça existe. Une grande partie du monde fonctionne comme ça, d'ailleurs. Mais quand on est avisé de l'évangile et de son message, je crois que nous apprenons une chose tout à fait essentielle, et je voudrais pas choquer la conscience de certains, mais l'homme sans Dieu, l'homme sans foi, n'est pas dans la capacité de faire le juste bien. Je dis pas le bien, le juste bien. Le bien qui est retenu et qui est, en effet, bien honoré par Dieu. Parce que on n'est pas les seuls, hein, n'allons pas nous faire d'illusions. Il n'y a pas que les chrétiens qui font du bien. Parce que je vous dirais même quelquefois, les chrétiens font du mal. Ce qui est tout à fait anormal. Alors là, ça ne passe pas. Mais bon. Mais une chose qui est certaine, c'est que toute la Bible nous enseigne, depuis le début jusqu'à la fin, les premières pages jusqu'à la fin, c'est que l'homme est incapable de faire un juste bien. Il peut le faire temporairement. Puis on s'aperçoit que, compte tenu de tout le contexte dans lequel nous vivons, de l'inspiration, eh bien, souvent, le bien qui a été fait se dégrade et finalement, eh bien, les choses se corrompent, on peut dire cela. Vous savez, il n'y a rien de pire que le meilleur quand il devient finalement, eh bien, corruption. Ah oui, c'est un petit peu le sel qui perd sa saveur, vous comprenez? Ça aussi, ce sont des paroles du Sermon sur la montagne. Et dans l'épître de Jacques, il y a un texte quand même qui est intéressant. Je voudrais simplement en faire la lecture brève comme cela, parce qu'il nous remet en place sur ce qu'est la foi et les œuvres, sur ce qu'est le bien selon Dieu, et le bien qui peut être prépendument fait au nom de Dieu, mais qui sert l'homme, ou le bien qui est fait glorifie l'homme avant de glorifier Dieu. Alors, dans Jacques, il est dit ceci: que sert-il à quelqu'un, verset 14, alors je ne vous ai pas donné la référence, Jacques 2, verset 14, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça c'est vrai. Si vous dites que vous êtes croyant et que vous n'en faites rien d'être croyant, ça ne sert à rien. Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est bien de dire, eh bien, mon pauvre ami, tu n'as pas à manger, bah, que Dieu te bénisse, puis une prochaine fois. C'est sûr que ça va le nourrir, hein. C'est sûr que ça va lui faire du bien. Il sera content, mais bon. Alors, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira à toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Eh oui. Partage des pouvoirs. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et là, c'est juste. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors après, il est question d'Abraham, je passe. Il est dit à un moment donné, dans le dernier verset, verset 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Et ça, c'est quelque chose qui, quelquefois, eh bien, nous interpelle. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, chrétiens, que nous avons cru accepter Jésus-Christ, il y a nécessairement quelque chose qui en découle. Et pas des choses extraordinaires. C'est pas parce que je dis que je suis chrétien que maintenant, eh bien, voilà, je suis un super homme, un super saint, et que ce que Dieu attend de moi, ce sont des choses là qui vont dépasser l'ordinaire, spectaculaire, etc. Ça, c'est le meilleur moyen pour tomber dans l'orgueil. Hein. Dieu m'a donné, je suis pas n'importe qui, attention, hein. Non, c'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses. C'est dans la vie quotidienne, c'est dans la vie entre nous, C'est dans la vie à l'extérieur, dans notre vie sociale, dans notre vie conjugale, dans notre vie familiale, dans notre vie amicale, partout où nous pouvons trouver l'expression concrète de manifester notre foi avec quelque chose qui suit. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Ah oui, il parle bien, c'est un beau chrétien, beau, enfin, prétendument bon, mais toujours est-il qu'il n'y a rien derrière. Alors vous savez, ça, c'est un contre-témoignage. Ah oui, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est quelque chose qui complique la situation. Dans notre texte, pour y revenir, Jésus paraîtra comme le roi pour rendre la justice à toutes les nations au regard du principe de la grâce divine. Parce que qu'est-ce que nous avons à donner? Qu'est-ce que nous avons à offrir? Sinon, ce que Dieu nous a déjà donné. Hein. Vous savez, quand on arrive sur la terre, on n'a rien qui ne nous appartienne. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est la tendresse de nos parents, et puis ce qu'ils nous ont légué, ce qu'ils nous donnent. Et on grandit comme ça, et après on fait notre chemin, on fait notre vie. Il y en a certains qui n'y arrivent pas à grand chose, parce que bon, voilà, c'est ça, ils restent pauvres, étant et restant pauvres, puis il y en a d'autres qui font fortune. Enfin bon, ça c'est sur le plan tout à fait humain. Mais il faut toujours se rappeler que ce que je suis est plus important que ce que j'ai, c'est-à-dire l'être plus important que l'avoir. Et si je suis, parce que Dieu m'a donné la vie, alors à ce moment-là, il me donnera un accompagnement d'un avoir que il me sera donné par amour de partager avec les autres. C'est, vous savez, c'est cette fameuse parabole de Jésus avec le riche cultivateur qui a des fermes, des granges et qui a fait fortune, etc., etc. Et qui là, eh bien, le soir même, Dieu lui dit, mais à quoi cela va-t-il te servir puisque de toute façon, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Eh oui. Et le grand drame de cet homme, premièrement, c'était l'égoïsme, parce qu'il ne pensait qu'à lui, il ne conjugue qu'à la première personne du singulier, jamais au pluriel. Et puis le gros problème qu'il a, véritablement, et Jésus va le signaler, c'est qu'il a confondu les moyens de vie avec les buts de la vie. Ouais. Le but de la vie, c'est de rencontrer Dieu, c'est de vivre pour Dieu. Et ensuite, avec tout ce que cela peut comporter, pour bénir les autres. Et non pas de dire « moi, moi, moi et moi seul ». C'est un peu le régime du monde d'aujourd'hui. Hein. L'homme que l'on pourrait dire tout simplement, l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, l'homme irrégénéré, l'homme naturel, l'humain, on pourrait peut-être le dire. Alors que sachant qu'un chrétien qui vraiment a fait une expérience avec Jésus, c'est un homme nouveau, qui est passé par une nouvelle naissance. Ça change tout. Hein. Et ça change toute la vision et notre engagement et ce que nous faisons, le sens de ce que nous faisons, les mobiles que nous avons. Alors ce principe de la grâce divine, et celui-ci, c'est que les hommes ont tous eu l'occasion, d'une manière ou d'une autre, de connaître le salut de Dieu que Dieu leur offre. La volonté de Dieu exprimée par Paul dans une de ses épîtres, c'est que tous les hommes soient sauvés et connaissent et parviennent à la connaissance de la vérité. Et je dis que nous avons le privilège de savoir lire, ouais, de vivre dans un pays qui est de culture chrétienne, oui, qu'en fait-il? Mais moi je sais que l'individu qui est aux antipodes, qui peut-être ne sait pas lire, on est venu déjà à son secours en traduisant la Bible quand même. 2400 versions de Bible traduites, hein, donc il y a eu quand même un effort ces derniers temps pour apporter la Bible à ces hommes. Mais qu'ils soient ici, qu'ils soient là, qu'ils soient savants ou ignorants, qu'ils soient tout simplement rois ou manants, peu importe. En tous les cas, la volonté de Dieu, c'est qu'il entende parler que Dieu est un Dieu de grâce, non pas un Dieu de jugement, mais un Dieu de miséricorde. Et qui va lui donner, qui lui donne, eh bien, les moyens de pouvoir être en bénédiction au nom de Dieu à tous ceux qui sont pas comme lui, ceux qui manquent, ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Et c'est ainsi ce que nous allons justement voir d'ici quelques instants. Parce que ça se base sur cela. Celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas Dieu qui condamne. C'est lui qui se condamne par incrédulité, par refus finalement d'accepter ce que Dieu, le salut, procède de la foi et non pas le contraire. Oui. On n'est pas sauvé et ensuite on croit. On croit et on est sauvé. C'est tout le principe du baptême adulte hein, dans nos églises. Un petit enfant qui a 8 ans, vous allez voir dimanche prochain puisqu'il y a un service de baptême ici. Et vous verrez que les baptisés, ce sont pas, je ne veux pas les porter dans mes bras. Hein. Non, non, ce sont des hommes et des femmes qui, en connaissance de cause, ont pris la décision de dire, eh bien maintenant, moi, par l'expérience de la grâce et de l'amour de Dieu, j'ai décidé, finalement, de donner ma vie au Seigneur. Vous verrez, vous connaîtrez, quand on connaît Serge, il a 50 ans, et puis Virginie, elle a 40 ans. Imaginez-vous que, voilà, ce sont des hommes, mais ils ont compris à un moment de leur vie qu'il y avait un tournant, et qu'il y avait quelque chose, et ils ont cru. À travers tous les siècles, Dieu a porté la connaissance aux hommes de son message de salut. Et devant cela, il faut agir en conséquence. Tout simplement, qu'est-ce que je fais de ce message? Qu'est-ce que nous faisons de la parole, ne serait-ce que d'aujourd'hui, que nous ouvrons? Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'écouter. Je pourrais peut-être dire, le prédicateur ou le pasteur, il a bien ou mal parlé, vous ferez ce que vous voudrez, hein, moi ça me dérange pas. Mais et de l'oublier, la porte sortie. Ou alors, à ce moment-là, vous réfléchirez, vous direz, mais il y a quand même quelque chose. Et les paroles, ce n'est pas les paroles d'Alain Ouvrard, ce n'est pas les paroles du centre évangélique. Vous avez remarqué, j'ai bien ma Bible ouverte devant moi, je voudrais restituer les paroles de Dieu et les paroles de Christ. C'est ça ce qui est l'autorité de notre foi. Autrement, le reste, la religion, hein, voilà. Alors, au jour du jugement, il deviendra manifeste si cet appel a été accueilli ou refusé, ça ne se voit pas encore aujourd'hui, et même devenu une simple croyance. Ah oui, et c'est là où nous touchons justement le caractère religieux des actes et des œuvres. Une simple croyance. Jésus a fustigé les hommes religieux de son temps en leur disant « Mais ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. » Il faut qu'il y ait un accord entre notre cœur, et véritablement eh bien, ce que nous disons. Et si c'est devenu une simple croyance, une culture chrétienne, religieuse, ça ne va pas plus loin. La séparation où l'ultime tri nous est présentée, qui verra la cessation du mélange, la confusion et l'équivoque de notre monde. Aujourd'hui, on ne sait plus tellement où donner de la tête. Qui est vrai, qui est faux, qui est juste, ce qui est juste, ce qui est faux. Le monde, les ténèbres, la lumière, la vérité, le mensonge. C'est un véritable labyrinthe et je comprends que pour beaucoup de gens en disant « Mais voilà, Dieu ne nous intéresse pas parce que dans tout ça, on ne reconnaît rien du tout. » Ouais. Mais il y a une chose qui est importante pour chaque homme, parce que Dieu lui a mis dans son cœur, c'est la pensée de l'éternité, qui fait que si nous avons l'amour de la vérité, Dieu nous enverra l'esprit de vérité. Et là, nous comprendrons des choses que peut-être, eh bien, nous n'avons pas compris jusqu'à maintenant. J'en arrive au verset 34, où il est dit cette parole, « Alors le roi dira à ceux à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume que je vous ai préparé dès la fondation du monde. » Il y a une espérance formidable pour nous, hein. Vous vous rendez compte? Nous régnerons avec Jésus. Il y a des gens qui, quelquefois, espèrent régner sur cette terre. Il y en a qui ont rêvé qu'ils sont peut-être devenus « Quand je serai président de la République ?» Je! Alors, moi, je ne voudrais pas vous rappeler des souvenirs. Enfin, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Mais toujours est-il que, voilà. Mais nous, nous régnerons de l'autre côté dans un monde qui sera tout à fait différent du nôtre. Il n'y aura plus ce que nous connaissons. Il n'y aura plus les pleurs. Il n'y aura plus les souffrances. Il n'y aura plus la guerre. Il n'y aura plus cette méchanceté, quelquefois dont les religions tirent parti. On le voit aujourd'hui. Il n'y aura plus toutes ces choses abominables. Non, ce sera un autre monde. Ce ne sera pas un monde matériel. Ce sera un monde d'une autre dimension corporelle, bien que la corporalité, il nous est dit que nous serons revêtus d'un corps nouveau, comme Jésus lorsque il a été glorifié à la résurrection. Là, je peux pas vous en dire plus parce que je suis pas allé, je suis pas revenu. Mais toujours est-il que la Bible me le dit et je crois ce que la Bible me dit, tout simplement dans l'espérance que les choses vont se faire. Alors, les choses, donc, Jésus précise une position d'honneur de ceux qui ont fait foi à son appel, qui ont cru à son appel, à sa parole, qui ont suivi surtout et qui ont vécu son exemple. Ils seront à sa droite, tout simplement. Avec cet insigne privilège, et ne l'oubliez pas, il dira « Vous êtes bénis de mon Père et prenez possession du royaume. Nous serons fils de roi. » Ça vous fait pas rêver? Ben vous savez pas encore ce que c'est. Et moi non plus d'ailleurs. Mais ce sont des belles promesses qui entretiennent notre foi en Dieu et qui nous permettent de tenir dans nos souffrances et dans nos épreuves que nous connaissons. Parce que nous savons que si ici-bas, nous avons tant et tant de tribulations et de difficultés, nous savons que de l'autre côté, eh bien, toutes ces choses seront finies. C'est pour ça que C'est pour ça qu'il y a des témoignages extraordinaires à travers l'histoire du christianisme, avec des hommes qui ont souffert 1000 morts, qui ont souffert des épreuves, la privation, la spoliation, toutes sortes de choses, et qui ont dit, mais Seigneur, ces choses de la terre, elles sont de la terre, elles me servent et je t'en bénis tous les jours, merci de me les avoir données, mais je sais que de l'autre côté, finalement, nous n'aurons plus besoin de tout ça. Hein. Et ce sont des vérités, hein, ce que je suis un peu de rappeler, hein, tout simplement. Ce Christ, ce roi, donc, c'est Christ. Hein. Ce n'est pas autre, quelqu'un d'autre que Christ, qui n'est que l'expression, lorsqu'il dit ces mots, qui est l'expression de la miséricorde divine, selon Romains, apôtre Paul, Romains chapitre 8, verset 1er, ce verset mémorisez-le. Bon. Parce qu'il est fondamental, il est essentiel, et vous l'avez souvent entendu, si je vous dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le verset clé. Culpabilité, exit. Les crises et les conflits, parce que nous avons peur de Dieu, allez, à la porte. Il n'y a plus de condamnation. Vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, Dieu vous pardonne vos péchés, vous vous maintenez dans ce pardon, alors il n'y a pas de condamnation pour vous. Et puis, il y a dans 1 Thessaloniciens ce texte que je voudrais aussi vous restituer, parce qu'il nous parle de la même chose, alors que je tourne rapidement les pages 1 Thessaloniciens, et au verset 4, au chapitre 4, pardon, et au verset 17, il est donné cette parole, « Ensuite nous les vivants, donc nous sommes là aujourd'hui, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, ce sera le moment de l'enlèvement dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Il nous a dit, mais consolez-vous par de telles paroles. Ouais. Le Seigneur revient chercher son Église. Ça s'appelle la grande doctrine de l'enlèvement. Jésus est venu pour sauver, maintenant il va emmener ses rachetés. Et les signaux d'alarme sont en train de se mettre en route un peu de tous les côtés, dont le principal c'est Israël. Il passe au rouge en ce moment, Israël, hein, depuis 50, 60 ans, là. Ça passe au rouge, hein. Nation qui avait disparu complètement pendant 2000 ans et qui maintenant revient finalement dans le concert des nations. Regardez de ce côté-là, mais il n'y a pas que ça, hein. Je peux vous dire. Alors, consolez-vous. Parce que le Seigneur revient pour le soulagement et la délivrance de notre monde qui s'enfonce de plus en plus dans la haine et dans la guerre et dans toutes sortes de choses. C'est le témoignage du salut par la foi. Foi qui trouve sa vraie valeur lorsqu'elle est suivie d'actes et de fruits découlant d'une réelle communion avec Dieu, d'une réelle foi en Dieu, laquelle produit la générosité et l'amour pour autrui. Eh oui, ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu seulement pour moi, je l'ai reçu pour le donner aux autres. Nous devons être des sources et des ressources de bénédiction. David pouvait dire ces mots, « Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. » Elle déborde la coupe. Et que l'Église ait ce témoignage dans ce monde d'être une Église qui accueille, une Église qui aime, une Église qui manifeste la compassion de Jésus, une Église qui est à l'écoute des autres. Et de pouvoir partager le trésor que Dieu nous a donné, ça, c'est quelque chose qui nous est propre dans nos églises évangéliques, c'est-à-dire le message de la parole de Dieu, de l'évangile qui sauve les hommes par la foi en Jésus-Christ. Alors, ça c'est l'essentiel. Et après, le reste découlera. Les actions sociales chrétiennes, à travers tout ce que nous pouvons faire pour aider les autres, ceux qui sont démunis. Je rappelle au passage, vous savez qu'on a une association en lien avec le centre évangélique, qui est une association cultuelle, celle que nous sommes aujourd'hui en ce moment en train de partager, mais qui s'appelle Association culturelle Tremplin, et où nous pouvons, selon nos modestes moyens, aider les frères et les sœurs, et voire même ceux de l'extérieur, quand ils sont en difficulté. C'est la foi d'abord, et ensuite les fruits de la foi, ou les œuvres de la foi, si vous aimez mieux. Alors le verset 35 et 36 est intéressant par cela. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. On verra la réponse de Jésus d'ici un instant. Belle et touchante image de la charité chrétienne. Et mot charité n'est pas un vain mot. Qui déploie tous ses soins et toutes ses attentions au profit des souffrants, parmi nous et hors de chez nous, qui déploie ses soins et ses attentions auprès de tous les manquants, de tous ceux qui ont des manques, les rejetés, les exclus en tout genre. La foi agissante, selon le terme de l'apôtre Paul, il parle d'une foi et d'une charité agissante, au mobile pur est la réponse à l'égoïsme, à l'individualisme de notre monde d'aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'aides, restant du cœur, secours populaire, et ceci et cela. Je dis merci Seigneur que ça existe, qu'il soit exprimé dans la foi ou par la foi, parce que les gens mangent quand même. Mais je crois que ce qui nous concerne, parce que ça nous concerne nous personnellement, je crois que quand on y met l'association de Dieu, pas pour se récupérer, pas pour dire, vous savez, notre petite église de Saint-Nazaire, à Pignon-sur-Rue, auprès de la municipalité, vous savez, si c'est pour se faire voir, ça ne sert à rien. Enfin, moi, je suis pas de cette façon-là. Mais que s'il y en a un qui doit être glorifié, même silencieusement, qu'il puisse être reconnu que ceux qui reçoivent des autres, ils puissent, comme nous, dire merci Seigneur. Oui. Merci Seigneur. La reconnaissance est la mémoire du cœur. Et je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui, il faut réapprendre toutes ces choses élémentaires de savoir dire merci. Et nous voyons que depuis que cette politique sociale et civique et républicaine, je ne conteste pas, hein, on s'aperçoit que malheureusement il y a eu des déviances par rapport à ça. C'est qu'on fait des gens avec une mentalité d'assister. Et quand ils n'ont plus, ils se fâchent. Vous m'avez donné, vous me donnez plus. Alors je suis pas content après vous. Voilà. Et je casse tout. Ah, c'est en grande discussion, hein, tout ça. C'est pour ça que le monde est agité. Et en France, bénissons le Seigneur de vivre dans notre pays. Moi, j'entends ainsi par de droite et de gauche qu'il y a des choses qui sont quand même pas comme chez nous. J'ai de la famille en Angleterre, je peux vous dire que ceux qui sont nantis, ils sont nantis. Hein. Mais ceux qui sont en bas de l'échelle, vous avez entendu les commentaires sur les contrats, là, de ceux qui sont employés. Hein. Je peux vous dire que c'est corvéable à merci. Hein. C'est terrible hein, pour un pays comme ça. Et en Allemagne, c'est pareil. Enfin, je suis pas en train de faire de la géopolitique sociale. Mais c'est pour dire que quand même, vraiment, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui vient transformer une vie, qui vient recevoir, moi je me souviens toujours, quand je me suis converti, j'avais 20 ans, vous le savez, hein. Ça fait au moins 120 ans que je vous le raconte, mais bon, toujours est-il que... Alors, vous voyez le grand âge qui est le mien, mais toujours est-il que quand on m'a accueilli dans une certaine famille à l'étranger, ah, c'était quelque chose parce qu'ils avaient ajouté leur foi à véritablement le don, le geste. Et ça, j'ai été bouleversé à cause de ça. C'est formidable d'avoir des amis. Et on les oublie jamais, ces amis qui nous ont apporté Jésus et qui nous ont apporté finalement les trésors qui étaient avec Jésus pour la vie courante, tout simplement. La foi agissante, tout simplement, réponse et surtout compassion pour ceux qui souffrent du manque, pour satisfaire leurs besoins vitaux, comme manger et boire. J'avais faim et j'avais soif et vous m'avez donné à manger, dit Jésus. Ce sont ceux qui ressentent aussi cruellement les exclusions et les rejets de la société. J'étais étranger et vous m'avez même pas regardé. Vous m'avez repoussé à la mer. Vous m'avez dit les frontières sont par là. Voilà. Ceux qui sont démunis et qui ont été dépouillés, j'étais nu. Ouais. Ceux qui sont privés de capacité physique ou morale, j'étais malade. J'ai souffert dans mon cœur, dans mon corps, l'angoisse. Je souffrais dans mon corps, j'étais malade. Alors, vous êtes venu et vous avez fait quelque chose. C'est pas la peine de faire grand chose, hein. Mais de dire quelquefois une parole d'encouragement. Vous savez combien les gens sont sensibles? Nous rentrons dans l'aumônerie à la cité sanitaire de Saint-Nazaire en ce moment. Et je peux vous dire que dans les préparations d'une visite à un malade, faut faire attention à ce que l'on dit. Attendez, je frappe à la porte, je suis le pasteur, c'est moi. Vous allez m'écouter. Hein. Pensez que celui qui est sur le lit, il n'a pas forcément... Non, mais quelquefois de s'approcher et puis d'avoir quelques paroles, tout simplement. Et de lui faire une proposition de dire, est-ce que vous souhaitez que je prie pour vous? Vous savez, les gens refusent pas hein, quand ils sont dans ces conditions. Ça peut changer une vie. Ouais. C'est pas de raconter la doctrine, le dogme et toute la Bible. Hein, ils n'en ont rien à faire de ça. Excusez-moi de le dire. Mais ils veulent une manifestation de l'amour de Christ à travers chacun d'entre nous. Une parole. Pas grand-chose d'autre. J'étais malade. Les captifs en privation de liberté sous diverses formes. J'étais en prison. Tout simplement. Et Jésus résumera de cette manière, donner, recueillir, revêtir, visiter, assister. Je crois qu'on connaît tous ces verbes. Hein. Et vous remarquerez, le verbe dans la langue française, c'est exprime toujours l'action. C'est pas de le dire, mais c'est de le faire. Oui, tout simplement. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, etc., etc. L'étonnement de ceux qui font le bien. C'est bien d'être étonné de faire le bien, sans savoir que quand on fait le bien, on en retire de l'orgueil et une fierté personnelle. Regardez. Regardez comme je suis bien. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je rends témoignage que aujourd'hui, cette semaine, j'ai vu ceci et cela. Je voudrais que vous le sachiez que j'ai fait le bien. Que vous n'oubliez pas que je suis un homme de bien. Alors écoutez, si vous faites ça, ça revient exactement à ce que Jésus nous dit. Des juifs, dans le sermon sur la montagne, particulièrement de ceux qui font des aumônes, des offrandes, disent, et qui aiment à prier le long des rues, disant, Seigneur, regarde, tu sais, sans toi, finalement, l'église, elle serait pas belle, mais à cause de moi, elle est belle. Hein. Pas de problème. Hein. Jésus nous dit, ils ont leur récompense. Ce sont des... Ça commence par un H. Hypocrite. Oh, bah. Ça va, je vous fais travailler un petit peu ce matin. Hein. Non, ça va, c'est pas trop difficile. Aïe, aïe, aïe. C'est bien la grâce de Dieu. Hein. L'étonnement. Et quand on fait le bien, que ta main droite ne sache pas ce que fait la gauche. Connaissez, vous l'avez vu ça aussi. Hein. C'est pas la peine de le dire et de crier sous les toits et de sonner de la trompette, tout simplement. Alors, vient de ce que les justes ont fait à lui-même, c'est-à-dire au Seigneur, ce qu'ils ont fait pour tous les malheureux rencontrés. Si je fais quelque chose, quand j'exprime mon ministère pastoral, je ne le fais pas pour dire « Ah, c'est le pasteur ». J'exprime les choses pour que vous reconnaissiez humblement, modestement, que ce qui est fait, c'est fait au nom de Jésus-Christ, et que vos cœurs et vos regards soient fixés sur Jésus, non pas sur moi. Parce que ça durera pas toujours. Hein. Mais avec Jésus, ça durera toujours. Ça, c'est clair. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous les avez faites. Quelle leçon pour combattre l'égoïsme et l'indifférence sans pour autant mettre en avant le bien accompli comme prétention au salut. Je fais du bien, je gagne mon ciel, j'ai des mérites, le Seigneur me donnera bien un fauteuil ou ne serait-ce qu'un petit strapontin dans le ciel. Ça, c'est faux comme raisonnement. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Je suis vraiment protestant. Hein. Et je proteste. Bon. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et que l'Église chrétienne, en tout genre, dans différentes dénominations, s'est glorifiée du bien qu'elle a fait. Au lieu de glorifier Dieu. La bienfaisance éclairée n'est que l'identification étroite du bien accompli qui existe entre Jésus et ceux qui réalisent sa volonté en faveur de nos semblables souffrants. Quand le bien est fait, on doit diriger les regards et les cœurs de ceux qui en bénéficient vers Jésus, pas vers nous, pas vers l'Église, mais vers Jésus, tout simplement. Le bien que nous pratiquons est la manifestation ou l'expression visible du salut. Parce que je suis sauvé, eh bien je veux faire ce bien qui va finalement eh bien enrichir la personne qui va le recevoir et qui glorifiera le nom du Seigneur. Remarquons une chose, mais comment nous sommes venus ici dans cette église, ici ou ailleurs? C'est parce que quelqu'un est venu nous a parlé de Jésus dans notre détresse et dans notre désespérance. Et là, à ce moment-là, il n'a pas oublié, en nous donnant, en nous faisant du bien, de dire, mais je te fais du bien au nom de Jésus-Christ. Je te fais du bien parce que je crois que Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a fait lui-même du bien. Et moi, je partage avec toi. Et maintenant, ce que nous devons dire, ce n'est pas à nous. C'est pas à nous de recevoir vos remerciements ou votre gratitude. Maintenant, une chose qui nous fait le plus plaisir et qui est vraiment, nous pourrions dire, notre récompense en tant que chrétien, c'est quand la personne qui reçoit du bien d'une manière ou d'une autre, de dire, eh bien maintenant, je suis convaincu que Jésus-Christ est vivant et je me donne à mon tour à Jésus. Ça, c'est le plus beau. La récompense d'un prédicateur, c'est pas son salaire. Surtout que j'en ai plus depuis longtemps, hein. Mais une chose qui me récompense, c'est quand je vois une âme venir, quand je vois quelqu'un qui s'approche, qui vient dans les réunions, qui vient et qui demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas ceci et cela. Et que l'on voit qu'elle s'ouvre comme une fleur, vous savez, qui s'épanouit en disant, mais je viens de découvrir un nouveau monde. Ça existe. C'est beau. C'est magnifique. Je sens que le Seigneur pose la main sur moi. Il est en train de me donner cette paix que je n'ai jamais connue et cette joie. Parce que j'étais profondément perdu et triste. Oui. La plus grande récompense pour chacun d'entre nous, c'est quand une personne se tourne vers le Seigneur. C'est l'histoire de la brebis perdue que Jésus nous raconte dans Luc chapitre 17. Je finis bientôt. La pratique de ces actes d'amour au nom du Seigneur est la preuve d'une nouveauté de vie. Oui. C'est pas un acte social. C'est parce que nous sommes nés de nouveau. Et parce que nous sommes nés de nouveau, eh bien, le Seigneur a rempli notre cœur d'amour. Ouais. C'est pas un amour béat. Où nous serions là, entre ciel et terre, éthérés. Et... Non, c'est pas un amour béat. C'est un amour qui voit clair, qui a des yeux, qui n'est pas aveugle, naturellement, hein. Et qui sait faire les choses, qui sait faire la distinction entre le bien et le mal. Parce que si vous voulez faire du bien, vous allez trouver toutes sortes de gens qui vont lever la main. Faites-moi du bien. Mais à quelle fin? Faut pas oublier que Jésus était tout à fait perspicace, il était tout à fait conscient de la chose, pour que finalement, eh bien, ce bien-là ne soit pas détourné ou ne soit pas exploité, si on peut dire les choses de cette manière. Né de nouveau, car il ne s'agit pas de déplacer des montagnes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais d'offrir simplement un verre d'eau à l'un de ses petits. C'est pas grand-chose. Moi, je sais que mon ami Henri, il va souvent avoir une récompense extraordinaire. Il m'amène toujours un verre d'eau avant que je prêche. Merci, Henri. J'en profite pour te le dire. Mais bon. Voilà. Alors maintenant, je sais que je l'ai dit pour Henri. Il y a peut-être une vingtaine de verres d'eau dimanche prochain, hein. Trop. Non, mais c'est Jésus qui le dit. Celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses petits qui a soif, eh bien, il aura une récompense, voilà, tout simplement, au nom du Seigneur. Heureux celui qui sait, heureux celui qui peut et qui veut servir le Seigneur au travers d'autrui, même dans les choses les plus banales. Eh oui, les choses les plus banales. Dans Corinthiens, il est donné cette parole. Moi, je crois qu'elle est pertinente, tout à fait. Et il est donné ce verset, Corinthiens chapitre 3, verset 23. Écoutez bien. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour qu'à récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon sa justice, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Non, pas du tout. Il faut que notre cœur soit pur dans notre démarche de faire du bien. Faites-le de bon cœur. C'est une généreuse motivation par l'Esprit de Dieu en nous qui doit nous motiver. Et je termine, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Eh oui. Nous avons à noter ceci, à l'un de ces plus petits de mes frères. Il y a deux sortes d'hommes. Il y a mes frères en la foi, en Jésus-Christ, dont nous partageons quelque chose de commun, c'est notre salut en Jésus-Christ. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Vous savez. Personne ne répond, mais enfin bon. Et puis il y a ceux qui sont mes semblables, mon prochain, voire même mon lointain, que je dois honorer comme étant et respecter comme une créature de Dieu, au même titre que moi. Mais Jésus parle de ses frères. Alors vous allez voir que ça n'exclut pas finalement de faire du bien à tout le monde. Mais il précise les choses. Jésus ne parle pas ici de tous les hommes, mais ailleurs, il définit ce qu'il estime être ses frères. Dans Matthieu chapitre 12, nous avons cette parole de Jésus qui nous éclaire sur qui est qui. Et au verset 48 et 50, chapitre 12, 48, 50, il est donné cette parole. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère, et ma sœur et ma mère. Voilà. C'est une question de volonté de croire. C'est une union, c'est en quelque sorte ce qui nous réunit les uns les autres, c'est que nous faisons la volonté de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu et nous nous plaisons à faire la volonté de Dieu. Ce que le reste du monde n'en a rien à faire, excusez-moi, de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, du message de l'évangile, ou à différents degrés d'approche, je veux bien le croire, et en respectant naturellement la conscience de chacun. Mais un athée, je peux pas dire que c'est mon frère. Il est mon frère semblable corporellement, c'est sûr, créature de Dieu sans qu'il le sache ou sans qu'il veuille le savoir, ou qu'il refuse de le savoir, mais une chose qui est certaine, c'est que je peux pas avoir de communion fraternelle avec lui. Parce que il me dit, mais t'es tombé sur la tête de croire en Dieu, tu te rends compte, Dieu n'existe pas. Alors mes frères, ce sont ceux qui ont la foi naturellement. Jésus donc nous donne ce sens. Sans négliger le reste de nos semblables que nous devons servir, que nous devons honorer et auxquels nous devons porter le message de l'évangile. Vraisemblablement. 41-44 dans les versets pour finir. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim. » Alors c'est la même chose, mais à l'envers, naturellement, dans le sens négatif. Et vous m'avez pas visité parce que j'étais en prison, etc. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, étranger, nu, malade, en prison, et ne t'avons pas assisté? Il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et voilà, les choses sont présentées de cette manière. Trois raisons de disqualification, la négligence, le refus de bienveillance, l'indifférence due à l'incrédulité, tout simplement. Et le verset 45 pose la dramatique sanction. C'est à moi que vous ne les avez pas fait. Vous auriez pu le faire, même humainement parlant, mais vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas voulu. La conclusion, c'est que les hommes sont sauvés par la foi au moyen de la grâce. Or, cette foi reçue implique le devoir dont l'élémentaire, c'est d'aimer. Alors, aimer, ça s'apprend. Ouais. C'est une chose qu'on a besoin d'apprendre. Il y a un chanteur très populaire qui a écrit une chanson. Il y a des écoles pour faire la guerre, mais il n'y a pas d'école pour aimer. C'est certainement vrai quelque part. C'est d'aimer. Aimer nos semblables, aimer nos frères et nos sœurs, et d'agir selon nos possibilités du moment pour leur faire du bien, tout simplement. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, et là c'est très pertinent ce qui est dit, écoutez. « Si quelqu'un dit, si je dis, si quelqu'un dit cette chose, j'aime Dieu, et qu'il n'aime pas son frère, le texte nous dit qu'il haïsse son frère, c'est grave, hein, ça va loin, hein. Qu'il méprise ou qu'il indiffère son frère. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il ait ce sentiment contre son frère, c'est un menteur. Voilà. Tout simplement un menteur, il se trompe lui-même, il trompe peut-être les autres, mais il ne trompera jamais le Seigneur, ça c'est sûr. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et là, moi je dis, c'est champion ça. Ah bah oui, excusez-moi. Moi, je ne vois pas le Seigneur, mais je sais qu'il est là. Sa présence, il m'en a fait la promesse. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ouais, je l'ai invité à venir, il y a des années de cela, dans ma vie, dans mon cœur, et de régenter toute ma vie. Alors, je ne le vois pas. Mais comment je peux prétendre, finalement, dire « j'aime Dieu » et que celui que je vois qui me ressemble, en quelque sorte, et que je lui dis « mais je ne t'aime pas parce que je ne t'aime pas, tout simplement. Et je ne veux pas t'aimer pour telle ou telle raison. » Alors à ce moment-là, le mot juste, la qualification est juste, c'est un menteur. Parce que comment peut-on aimer? Remarque, c'est moins dérangeant d'aimer un Dieu qu'on ne voit pas, parce que comme ça, il ne nous dérange pas. Mais par contre, celui qui est à côté de moi et qui manque équine, alors là, c'est autre chose. Quelquefois, on a envie de lui régler son compte. Jésus intervient et nous dit, aimez ceux qui vous bénissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Sermon sur la montagne. Eh oui, c'est ça l'évangile, hein. C'est ça, tout simplement. Alors, et nous avons de reçu ce commandement de Dieu, de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous avons été créés, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres ou d'œuvres bonnes, si vous voulez prendre dans ce sens, qui a été préparé d'avance afin que nous les pratiquions. J'ai la foi, faut que je pratique. Faut que je ne reste pas assis là, en attendant le retour du Seigneur, en disant, je suis sauvé, je suis heureux, maintenant ça va venir un jour, et je ne fais plus rien. Non, faut vivre ce que l'on croit. Faut mettre en pratique ce que l'on sait. Et de cette même foi que nous l'avons dit, dans Jacques, la foi, de cette même foi, la foi sans les œuvres est morte, et vice versa. C'est une œuvre morte si elle n'a pas la foi. Alors, humilité et modestie dans notre approche et dans notre vie. Ouais. Quand on est un orgueilleux, quand on est orgueilleux, prétentieux, tout ce que vous voulez, on n'y arrivera jamais. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je crois que la recommandation est faite, et je termine sur cette parole. Dieu nous demande de vivre modestement, de vivre humblement, et de lui faire confiance à notre Dieu. Alors à ce moment-là, nous serons accessibles. Et vous savez, les gens ne s'y tromperont pas. Si nous allons voir avec une prétention, vous savez, il n'y a que nous qui avons la vérité. Non, la vérité, c'est Jésus. Personnifié, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors à ce moment-là, les gens vont écouter. Et si derrière le cœur, il y a aussi la main qui peut consoler, la bouche qui peut apporter un encouragement, ben vous verrez, les gens, ils se tromperont pas. Ils diront, ces hommes et ces femmes, ils vivent un véritable christianisme authentique et ils le mettent en pratique. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va prier quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que nous croyons que toute ta parole est la vérité. Pour nous, nous la recevons comme telle. Mais Seigneur, cette parole, lorsqu'elle est ouverte et qu'elle est comprise un tant soit peu, et que nous cherchions à développer cette compréhension par la pratique, parce que ce n'est pas de le savoir, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas seulement une doctrine. Mais lorsque vraiment nous nous impliquons, nous vivons, nous mettons en pratique tes paroles, alors à ce moment-là, nous sommes en train d'ouvrir les portes d'un univers infini qui se prolongera jusque dans le ciel et l'éternité. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, je te demande de bénir particulièrement mes frères et mes sœurs ce matin, de leur faire le plus grand bien, ça c'est ce que je souhaite. Et nous allons continuer à le manifester entre nous, par bien des choses, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Et je te prie particulièrement aussi, et d'une façon tout à fait sensible, pour ceux et celles qui nous rejoignent, ceux qui peut-être font leur premier pas dans l'écoute de l'Évangile, ceux qui découvrent, en effet, Seigneur, que il y a là, à travers le message de Christ, quelque chose qui a peut-être été enfoui, méconnu pendant très longtemps de leur vie, au fond de leur cœur, de leur conscience, dans leur esprit, et qui sont en train d'ouvrir une nouvelle porte. Eh bien, Seigneur, je te demande ce matin que tu les bénisses profondément, que tu les visites, que tu leur fasses le plus grand bien, Seigneur, et qu'ils puissent découvrir, surtout non pas l'Église évangélique, mais qu'ils puissent découvrir Jésus-Christ, oui, comme leur Sauveur et Seigneur. Et puis donne-nous, Seigneur, en effet, des mains habiles, des paroles, Père éternel, sages, remplies de ton esprit pour parler autour de nous, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, et il peut devenir aussi le leur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons...
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.